Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui, même en l'absence momentanée de son présentateur habituel Jean-Pierre Boris, et dont je vais reprendre l'expression fétiche, démonte sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons rester au plus près de ce studio de RFI à Issy-les-Moulineaux dans lequel je suis installé. Nous allons en effet parler de l'économie française, des dégâts qu'elle subit au moment où la population est confinée pour la deuxième fois cette année. Nous verrons comment réagit l'appareil productif, comment se comporte le marché du travail, comment les aides publiques contribuent à atténuer ces terribles conséquences, bien sûr dans le contexte international que vous savez particulièrement mouvant et incertain. L'économie française reconfinée risque-t-elle de s'effondrer, comme le prédit le patronat? Pour répondre à ces questions et en débattre, quatre invités, tous à distance à cause de ce même confinement. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « La pandémie, l'anthropocène et le bien commun », publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Avec nous également Anne-Sophie Alsif. Bonjour.
Bonjour.
Chef économiste du BIPE, c'est un cabinet d'études qui fait de l'analyse, de la prévision macroéconomique et sectorielle. Plateau fourni, puisque nous sommes aussi en ligne avec Xavier Timbaud. Bonjour, monsieur Timbaud.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po. Et je termine avec vous, Emmanuel Jessua. Bonjour.
Bonjour.
Directeur des études de Rexecode, Institut d'études économiques qui met ses analyses au service des entreprises. Au cours de cette émission, des reportages, bien sûr, nous irons dans le département de l'Indre, dans le centre de la France, avec Alexis Bédu, à Marseille, avec Stéphane Burgat, et à Paris, avec Abla Jounaï.
Il n'y a pas d'économie prospère dans une situation sanitaire dégradée avec un virus qui circule activement. Et je vous le dis très clairement, il n'y a pas non plus un système de santé qui tient s'il n'y a pas une économie forte pour le financer. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher.
Pas question de dissocier exigences économiques et sanitaires. Santé et économie ne s'opposent pas, a dit et redit Emmanuel Macron le 28 octobre dernier, au moment d'annoncer le reconfinement de la France, tout en disant très clairement aussi que, contrairement au printemps, il fallait absolument que l'activité reste possible, des mots qui font toute la différence avec le premier confinement. Benjamin Coriat, première question, vous dites que c'est un discours équilibré ou alors que c'est une posture politique ?
Non, je ne dirais pas que c'est une posture. Je pense que la situation est extrêmement difficile et que l'équilibrage à trouver n'est pas simple. On souhaiterait tous, évidemment, en finir avec cette épidémie au plus vite. Peut-être que le choix d'un confinement plus dur aurait été nécessaire, compte tenu de l'état des hôpitaux. Mais en même temps, on peut comprendre que pour beaucoup de gens qui sont en situation extrêmement fragile du point de vue de l'emploi et des revenus, un confinement total aurait signifié des catastrophes. Mmh. Donc non, je ne dis pas que c'est une posture. Je dis que on peut réfléchir où mettre le curseur. Peut-être qu'il n'a pas été mis au meilleur endroit, au meilleur moment. Mais c'est l'objet d'une discussion. Je ne pense pas que ces choses-là soient simples.
Alors justement, Emmanuel Jessua, ce discours macronien, en même temps, comment est-ce qu'il a été reçu dans les milieux économiques, au-delà du MEDEF qui est très remonté? Qu'en pense la base, qu'en pensent les entreprises?
Non, mais je pense que tout le monde est conscient de la gravité de la situation sanitaire. Et donc, tout l'enjeu, effectivement, c'est d'arriver à faire le confinement le plus efficace pour contenir l'épidémie, tout en permettant à l'économie de survivre. Donc là, je pense qu'il y a un curseur qui est quand même intéressant, c'est-à-dire qui permet aux entreprises qui ne peuvent pas travailler en distanciel, je pense en particulier à l'industrie, de pouvoir continuer à travailler tout en assurant au maximum les mesures barrières et la distanciation.
Le chantier,
sociale.
Le BTP notamment, parce que c'est vrai que voilà, tout s'était arrêté de ce point de vue-là au printemps.
Le BTP qui avait été complètement arrêté. Après, il y a d'autres secteurs dans les services, surtout les services aux entreprises, qui peuvent bien davantage travailler en distanciel. Donc c'est probablement quelque chose qui est moins violent pour elle. Après, ce qui inquiète, c'est plus le climat général que ça engendre, c'est-à-dire l'idée qu'on n'en est pas sorti avec le virus. Et donc ça va peser à la fois sur les comportements des entreprises, notamment vis-à-vis de l'investissement, mais aussi des ménages vis-à-vis de l'épargne de précaution.
Alors on va en parler un peu plus tard, effectivement. Anne-Sophie Alsif, sur ce point, reconfinement désastreux, avec cet aspect psychologique aussi très fort, l'idée qu'il pourrait y avoir d'autres vagues encore dans les prochains mois.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça la grande difficulté, c'est que on n'arrive pas à en voir le bout et donc du coup à prévoir la reprise. Nous, c'est vrai qu'on fait pas mal d'analyses sectorielles et ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez énormément d'hétérogénéité dans les différents secteurs au niveau de l'impact économique. Bien sûr, hébergement-restauration, hein, je rappelle, 3% de notre PIB. Donc là, on est à des -30, -40% cette année d'activité. On a tout ce qui est aussi produits électroniques. Donc là, on aura une activité qui est maintenue pour tout ce qui est manufacturier, secteur manufacturier. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce nouveau confinement. En effet, l'industrie sera moins touchée. Et puis, on a toutes ces fameuses PME dans les services qui sont plus endettés qu'au premier confinement, hein, qui ont souvent déjà souscrit à un prêt garanti par l'État. Et donc, ces entreprises sont dans des situations beaucoup plus fragiles, avec des risques de faillite au dernier trimestre et au premier trimestre de l'année 2021. Et donc un risque fort d'augmentation du taux de chômage.
Je termine ce premier tour de table avec vous, Xavier Thimbault. On a parlé de l'international, hein. Est-ce que la France s'en sort vraiment moins bien en ce moment que ses voisins européens d'un poids équivalent, l'Allemagne, le Royaume-Uni par exemple?
La France est plutôt dans une position médiane. Alors, pour comprendre les différences en fait d'impact de la crise sanitaire, il faut d'abord considérer que la crise sanitaire ne touche pas les pays de la même façon. Alors à ça, il y a des raisons qui sont éventuellement l'état de préparation ou les mesures prophylactiques et le calendrier d'application de ces mesures qui ont pu permettre dans certains pays d'avoir un développement moins important de l'épidémie, comme par exemple en Allemagne. Mais il a été aussi plus important dans d'autres pays, en Italie ou en Espagne. Il y a aussi un facteur, je dirais, de chance, puisqu'on ne maîtrise pas tous les aspects de ce virus et de cette épidémie. Et l'épidémie s'est développée dans certains pays, pas particulièrement parce qu'ils ont fauté dans les mesures sanitaires, mais parce qu'ils ont été des foyers précoces et que l'épidémie s'est beaucoup développée à ce moment-là dans ces pays. Donc ça dépend de comment ils ont été traités, et puis ensuite de l'intensité des mesures prophylactiques. Alors de ce point de vue, la France fait partie des pays qui ont employé des mesures de grande ampleur, avec pour le premier confinement un certain succès, qui n'ont pas empêché la deuxième vague ensuite. Peut-être que le déconfinement a été trop rapide et pas assez rigoureux, mais dans les autres pays, on ne peut pas dire que le déconfinement a été beaucoup plus rigoureux. Et quand on combine le fait qu'on a été parmi les pays plutôt plus touchés par l'épidémie et qu'on a appliqué des mesures plus importantes, ça explique pourquoi, même si on est dans une position médiane, on fait partie des pays qui sont très touchés par cette crise sanitaire. Ceci étant dit, il faudra faire le bilan une fois que tout ça sera terminé, parce que il y a non seulement les mesures qui sont prises, la façon dont l'épidémie se développe, mais il y a aussi et surtout la façon dont on va rebondir après l'épidémie. Et là, rien n'est joué, et les mesures qui ont été prises dans un certain nombre de pays européens, dont la France, ont été plutôt d'essayer de préserver au maximum la situation des agents économiques pour favoriser un rebond. Et ça, on verra par la suite si c'était efficace et si ça a été réussi ou pas.
On les détaillera d'ailleurs tout à l'heure. Le discours du président Macron et du gouvernement de Jean Castex, il est, c'est vrai, assez difficile aujourd'hui à faire comprendre aux commerçants et aux entrepreneurs qui revivent ce scénario du printemps dernier. On va voir un exemple dans le département de l'Indre. C'est un département rural dans le centre de la France, une zone assez riche. Le taux de chômage y est inférieur à la moyenne nationale et pourtant, depuis le premier confinement au mois de mars, ce taux de chômage a bondi de 21%. Ce deuxième confinement est donc très mal vécu par les professionnels. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs d'Alexis Bédu.
Non mais ça va être compliqué, hein. Tu sais que ça va être très compliqué. Parce que
un seul sujet dans les discussions ce matin-là sur la place centrale de Chabris. Le reconfinement est un coup de massue. Dans ce petit village où les contaminations au virus se comptent sur les doigts de la main, on s'interroge. Eric est sans emploi et il est abasourdi.
Macron, il a pris une bonne décision. Par contre, les restaurants, les cafés, ça va être compliqué. Hein. Ça, l'économie, elle va se casser la gueule. Hein. Ça va être dur. Hein. Même ici, hein, puis les chômeurs et tout, oh là là, la misère. Ça va être une catastrophe.
Vous allez vous confiner chez vous, du coup? Vous allez rester chez vous un mois?
Bah, j'ai pas le choix, hein. Comme tout le monde. Hein. Ils disaient un mois, mais à mon avis, ça va être plus.
La grande majorité des petits commerces de Chabris sont désormais fermés. Les propriétaires du salon de coiffure, Patricia et Marc Janvier, sont dépités.
On a pris beaucoup de précautions depuis la réouverture au mois de mai. C'est incohérent. Je suis déçue. C'est une punition par rapport au respect qu'on a eu jusqu'ici.
Voilà. Monsieur, Marie, madame, on n'a pas retrouvé notre clientèle de début d'année. Voilà. Donc entre 25 et 30% qui sont partis. Ça, on ne sait pas où, on ne l'a pas vu.
Ils sont partis.
Ils sont partis, ça revient, ça commence à revenir. Vous voyez, là, jusqu'on referme. Alors vous voyez le bilan de ce que ça peut donner un confinement, en respectant les règles comme on les a respectées. Donc on est insatisfait.
Les grandes surfaces, elles, restent ouvertes. Philippe Jourdain, maire d'un village des environs et président de la communauté de communes, estime qu'il aurait fallu faire plus de cas par cas selon les territoires. Pour lui, certains petits commerces ruraux qui ont peiné à s'installer vont forcément disparaître à l'issue de ce deuxième confinement.
C'est un petit photographe qui vient de se réinstaller, c'est une agence qui vient de s'ouvrir, c'est un électricien qui vient de monter simplement son magasin pour faire un peu l'électroménager. Tous ces gens-là vont mourir. Dans nos petites communes de 100, 200, 300, 2000 ou 2500 habitants, les gestes de barrière ont été véritablement soutenus et respectés. Et là, en fin de compte, on va les obliger à partir dans un centre urbain avec d'immenses centres commerciaux pour pouvoir faire toutes leurs courses, ce qu'ils ne peuvent plus acheter dans leur commerce de proximité, là où ils étaient beaucoup plus sécurisés que dans les grandes surfaces. Et c'est là l'aberration pour nous.
À quelques kilomètres de ce village, il y a la petite entreprise SKV Usinage. 14 employés y fabriquent des pièces détachées, notamment pour les équipements intérieurs des avions.
On est dans l'usine, voilà. Ce matin, ça tourne, mais habituellement, on travaille en deux équipes. Là, on travaille en une seule équipe. Et même en une équipe, on a du mal à alimenter l'atelier.
Le secteur de l'aéronautique étant à l'arrêt depuis des mois, le carnet de commandes est vide. L'entreprise ne réalise que 40% de son chiffre d'affaires habituel. Le directeur du site, Sébastien Briquet.
Je pense que la solution de continuer à faire travailler les gens, c'était la bonne solution pour pas que le reste s'effondre. Si le reconfinement total avait été fait, oui, c'était la mort quasiment certaine, puisqu'on n'aurait plus eu grand-chose à faire, quoi. C'est une société qu'on a rachetée il y a 3 ans, on a investi très lourdement. Vous avez des crédits bancaires très importants, un chiffre d'affaires qui s'effondre. Donc l'équation est difficilement soluble, quoi.
Pour cette PME, un confinement plus strict, comme le réclame le conseil scientifique, est aujourd'hui inenvisageable.
Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce reportage. Incertitude, sentiment d'avoir été puni, sentiment d'avoir bien fait lors du premier confinement et donc de revenir à cette situation impossible. La fracture entre les villes et les campagnes, ce refus d'un reconfinement total. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin Coriat?
Autant je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la nature des décisions à prendre n'est pas simple, autant je pense qu'il y a pas mal d'incohérences dans les décisions prises, y compris à l'intérieur d'un confinement souple, si on peut dire, en tout cas d'un confinement adouci.
Il aurait fallu faire du cas par cas ?
Oui, moi je pense que à partir de règles nationales telles qu'elles ont pu être édictées, parce que évidemment il faut un cadre national, donner le pouvoir au préfet ou au maire, ou en tout cas organiser de la concertation avec les élus locaux, les associations professionnelles, etc., est indispensable. D'ailleurs, je répète que le conseil scientifique ne cesse de dire qu'il faut organiser la concertation citoyenne. Il ne cesse de le répéter. Et au moment où il fait ça, le gouvernement fait voter la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au mois de février, si j'ai bien compris, pour se donner tous les moyens d'agir en toute liberté, sans même clause de rendez-vous. Donc ça, c'est très choquant, c'est très choquant. Je voudrais juste rappeler, en matière de cohérence, que par exemple, la ville de Barcelone a fait un choix inverse. C'est-à-dire, elle autorise les petits commerces et elle ferme les grandes surfaces, ce qui, et d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue économique, me paraît une excellente décision. Parce que ça permet aux petits de survivre, les gros qui représentent des chaînes, etc., on sait les moyens qu'ils ont pour s'en tirer. Et même du point de vue sanitaire, il est évident que le petit commerce, si les gens Les petits commerçants sont responsables, et ils le sont dans leur écrasante majorité, ça garantit beaucoup mieux. Voilà, donc il y aurait beaucoup à dire. Pareil, on maintient les tabacs, mais pas les livres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La cigarette est un bien essentiel et le livre ne l'est pas. Ça ne va pas du tout. Donc je veux dire, sur le détail des mesures, il y a beaucoup à dire.
Alors parmi les victimes de cette crise, il y a notamment, on vient de le dire, les petits commerces qui sont très nombreux en France, hein, peut-être plus qu'à l'étranger. À Blajounaïdi, on a rencontré deux en région parisienne, un artisan et une libraire. Son reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
Dans une rue aux commerces fermés, des bruits d'outils sortent de la boutique de Laurent Griot, encadreur depuis 38 ans.
Alors m'interdit de commercer mais pas de travailler.
Bon, je travaille.
Après une année difficile, même avec les aides gouvernementales, c'est l'épreuve de trop pour cet artisan, unique salarié de son entreprise.
Il y a moins de chances d'attraper le Covid chez moi, vous voyez comment c'est fait. Personne ne touche, il n'y a que moi qui touche. Que dans une grande surface où tout le monde a tripoté tout, etc. Si on additionne tous les commerçants qui vont fermer, parce qu'ils vont tous fermer, avec un ou deux salariés, ça fera plus de gens au chômage que les 500 personnes de chez Leclerc. Mais bon, on fait des choix. Et ils font des choix, ce n'est pas les nôtres.
Bonjour, bonsoir, ça va ?
Et moi ?
Ouais ! On tient. Ben voilà, ici c'est une librairie de quartier. Ouais. C'est-à-dire que c'était essentiel, c'est essentiel que je sois là, même si je vends 10 livres par jour, ce qui est pas bon.
Pour Lynn Rock, libraire indépendante parisienne, les livres sont évidemment essentiels. Pour preuve, les gens sont revenus faire le plein avant la fermeture. Depuis, cet ex-68arde est tout à la gestion des commandes en click and collect. Elle ne décolère pas.
La réponse du gouvernement absurde est absurde totalement, puisque ça a été de fermer les livres de la FNAC et le rayon livre des grandes surfaces. Si tout le monde est fermé maintenant, bon ben il n'y a plus qu'Amazon pour avoir des livres pour les gens, pour le tout venant.
Bon ben merci d'être venu régler vos dettes.
Le gouvernement a décidé jeudi de prendre en charge les frais d'expédition pour les librairies comme la sienne, mais pour elle, cette fin d'année cruciale pour le chiffre d'affaires s'annonce déjà perdue.
Anne-Sophie Alsif, c'est une conséquence assez inattendue hein, de cette crise et de ce deuxième confinement. Ce débat très vif qui a été lancé entre le petit commerce, les grandes surfaces, Amazon, les libraires, la FNAC.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce débat a remis sur le devant de la scène un peu tous les problèmes de concurrence entre les différents acteurs. Alors en plus, à un moment où on avait l'objectif d'essayer de baisser les inégalités entre les différents territoires, donc on a beaucoup parlé de l'industrie, des territoires industriels, ceux qui ne le sont pas, mais aussi des services et ces fameux petits commerces hein, qui souvent étaient partis d'énormément d'endroits où il y avait beaucoup moins de population.
Il y a deux ans, la crise des gilets jaunes. Oui.
Voilà, la crise des gilets jaunes. Donc il y avait toute une réflexion pour essayer de lutter contre ces inégalités territoriales et pour remettre sur le devant de la scène ces petits commerces hein, dans les centres-villes, aussi pour casser, on va dire, même au niveau écologique, hein, le fait d'avoir des grandes zones commerciales en dehors des villes où vous devez aller avec votre véhicule. Donc il y avait vraiment cette tendance qui était vraiment mise en avant hein, par les instances, et là qui, malgré toutes les aides ou les différentes choses qui ont pu être faites, justement là on en a parlé pendant les élections municipales, au niveau des maires, énormément d'actions pour revitaliser les centres-villes, pour faire venir des jeunes donc dans ces territoires, et bien là, c'est vrai que le premier et surtout le second reconfinement est vraiment une catastrophe pour ces économies, hein, qui ont quand même moins de résilience au niveau de la capacité financière. L'autre aspect aussi, c'est l'aspect, parce qu'on dit beaucoup, voilà, il y a des aides et donc l'État peut faire des choses. Beaucoup de ces entreprises sont des entreprises vraiment familiales, où souvent les chefs d'entreprise ne veulent pas avoir normalement des prises de participation de l'État ou des agents extérieurs qui viennent, par exemple, au capital de leur entreprise. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'on met moins sur le devant de la scène, mais qui est aussi une difficulté pour les aider. Mmh. Alors, c'est vrai que pendant le premier confinement, on a pu voir avec l'octroi des prêts garantis par l'État que beaucoup de ces entreprises n'avaient pas utilisé toute la ressource de ces prêts, hein, donc avaient gardé, on va dire, des liquidités au cas où il y a un second reconfinement. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Là, c'est vrai qu'avec le second reconfinement, je pense que toutes ces réserves vont être utilisées et que là, il y aura quand même beaucoup moins de marge de manœuvre pour justement être dans la résilience et pouvoir garder, on va dire, leur entreprise.
Quel avenir pour l'économie française en pleine épidémie ? On continue d'en parler avec nos invités.
Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 euros par mois de leur perte en chiffre d'affaires.
Ce fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron rappelé le 28 octobre lors de cette allocution pour annoncer le reconfinement de la France. On continue de discuter pendant une vingtaine de minutes de ses conséquences économiques avec nos invités que je présente à nouveau. Benjamin Coriat, professeur d'économie à Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du BIPE. Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE. Et Emmanuel Gessua, directeur des études de Rexecode. Xavier Timbaud, au troisième trimestre 2020, l'économie française a formidablement rebondi, c'est ce qu'on peut lire un peu partout, plus 18%. Est-ce que ça peut être suffisant pour effacer au moins les dégâts du premier confinement, en sachant que la fin d'année s'annonce terrible comme chez nos voisins ?
Alors, suffisant pour effacer les dégâts du premier confinement, non, et ce qui... Il doit effacer les dégâts du premier confinement, ce sont les mesures de soutien aux agents économiques. Et là, on a vu le renforcement des mesures à destination des PME ou des petites entreprises ou des indépendants qui ont été touchés par le confinement. C'est des mesures qui sont très importantes parce que l'analyse, en tout cas qu'on avait faite à l'OFCE, était que les mesures qui étaient destinées aux entreprises étaient plutôt insuffisantes et que les entreprises avaient conservé, suite au premier confinement, une trace très lourde, de l'ordre de 50 milliards d'euros, donc c'est une somme considérable. Et donc, non, ça va pas suffire à effacer ces traces. Par contre, ce que ça nous dit, c'est que la capacité de rebond de l'économie, dans un contexte d'incertitude, dans lequel il y a quand même des mesures prophylactiques qui subsistent, puisque c'était le cas au début de l'automne et à la fin de l'été, dans ce contexte-là, malgré tout, il y a une capacité d'adaptation de l'économie. Et ça, je pense que c'est très important comme leçon. On voit qu'il y a une espèce d'arbitrage à faire entre soit on applique des protocoles sanitaires très stricts, pas plus de tant de personnes dans un magasin ou pas plus de tant de personnes par mètre carré, le port du masque, le nettoyage, la désinfection, des mesures prophylactiques sur le lieu de travail, dans les transports en commun, réduire au maximum la charge sur les transports en commun, ça c'est quand même un aspect très important qui est souvent négligé parce que chacun considère les mesures prophylactiques dans son lieu de commerce ou dans son lieu de travail, mais il y a quand même un point important qui est le déplacement de son domicile au lieu de commerce ou au lieu de travail. Qui peut être un moment de contagion. Donc avoir des mesures très strictes, mais essayer de continuer au maximum à fonctionner, ou dire on fait un confinement brutal, on interdit et on compense. Mais probablement, en fait, ce qu'a montré le rebond de l'économie, c'est que les mesures dans lesquelles on avait des protocoles très stricts, malgré tout, laisser suffisamment de place aux acteurs économiques pour que l'économie puisse fonctionner et peut-être même au-delà de ce qu'on pourrait penser. Et donc dans cet arbitrage, il faut vraiment y penser. Confiner de façon brutale et compenser, ça coûte très très cher. C'est pas quelque chose qui est bien vécu par ceux qui sont compensés, parce que on n'est pas dans une société d'assistanat, et donc c'est pas tenable sur le long terme. Or, là, on est en train de s'installer dans les mesures prophylactiques. Et si on veut s'installer dans les mesures prophylactiques, la bonne voie, elle n'est pas un durcissement du confinement, elle est un durcissement des mesures prophylactiques qui permettent quand
de
même
continuer à travailler. Emmanuel Gessua, l'une des grandes différences avec le premier confinement, c'est que, pour l'instant en tout cas, hein, les écoles, les collèges, les lycées sont ouverts, les parents peuvent travailler ou télétravailler. Est-ce que cela a un impact ? Est-ce que ça fait un vrai changement par rapport au premier confinement ?
Oui, je pense quand même qu'il y a un vrai changement pour la raison que vous mentionniez, c'est-à-dire que le télétravail va pouvoir aussi devenir un peu plus productif parce que
faut pas faire les devoirs en même temps qu'on travaille.
Voilà, exactement. Tous ceux qui ont des enfants me comprendront, et donc la conciliation de la vie personnelle et professionnelle sera facilité, on va dire. Après, c'est aussi parce que les entreprises ont plus de latitude quand même pour effectuer leur activité en présentiel, notamment toutes les entreprises dans lesquelles le travail en distanciel n'a pas de sens, hein, en particulier à l'industrie. Enfin, parce que les entreprises sont progressivement adaptées. On l'avait déjà vu progressivement au cours du premier confinement, certains secteurs reprendre une activité après la sidération. du confinement mi-mars. Et là, je pense que voilà, à la fois tant du côté des systèmes d'information que du côté de et donc de l'organisation du travail en télétravail, que du côté de la production sur site avec les mesures prophylactiques, comme dirait Xavier Timbaud, on a finalement un apprentissage progressif des entreprises à vivre finalement leur activité avec ce confinement.
Des entreprises fragilisées, en effet, des ménages aussi fragilisés. Exemple à Marseille, dans les quartiers nord de la ville, un ancien restaurant, McDonald's, est occupé par des habitants. Il recueille, il distribue des colis alimentaires. Reportage écho d'ici, écho d'ailleurs du correspondant de RFI, Stéphane Burgat.
On va s'occuper de vous, mesdames, bonjour.
Fermé depuis près d'un an, l'ancien fast-food a été réquisitionné lors du premier confinement. D'anciens salariés ainsi que des militants associatifs ont organisé dans l'urgence cette banque alimentaire des quartiers face à une détresse sociale galopante, selon Salim Grabsi, président du syndicat des quartiers populaires et co-organisateur de cette initiative.
Nous sommes passés de la pauvreté à la misère. En 30 ans de militantisme, je n'ai jamais vu une urgence sociale aussi rouge. Ce Covid-19, il a eu des conséquences terribles. Il y a eu des pertes de jobs, perte de repères, destruction du noyau familial.
Et ce sont autant d'histoires personnelles, d'emplois perdus, de parents privés de leur travail d'appoint par le confinement ou encore de petits commerçants criblés par les dettes. Et c'est avec beaucoup de gêne et de reconnaissance à la fois que tous se retrouvent sur ce petit parking.
On vous donne.
Merci, merci, merci.
C'est beaucoup plus urgent que le premier confinement parce que les gens en fait ont perdu leur emploi, les entreprises ont fermé. C'est hallucinant quoi.
Le bâtiment est parfaitement adapté au stockage et à la distribution des denrées alimentaires. Et heureusement, car la demande est énorme chaque semaine, c'est jusqu'à 3500 colis confectionnés, soit l'équivalent de 14 000 personnes nourries par la générosité de particuliers, comme d'associations ou encore d'entreprises. Un révélateur de la fragilité de ces quartiers s'émeuvent les bénévoles comme Mourad.
Ah oui, là c'est, ça augmente carrément.
Ça finit pas, et là j'ai la deuxième liste, 150 depuis quelle heure il est, une heure et demie. Ça fait mal au cœur, trop de dégâts par rapport aux familles.
Et comme à l'époque où ce McDonald's était ouvert, les voitures et les camionnettes s'arrêtent au drive pour récupérer les colis alimentaires ou au contraire pour déposer des dons, comme Leïla, une habitante des quartiers nord, qui apporte ce matin des sacs de vêtements.
Je suis venue faire un don d'habits. Quand je peux, je viens, je dépose. Ils ont besoin, je pense qu'ils ont besoin de qu'on leur vienne en aide. Couverture ou pull ou chaussettes ou bonnet, comme on peut. Tant qu'on peut aider, on le fera. Bah oui, ça fait de la peine. On voit la misère que les gens vivent.
Le lieu fédère un certain nombre de petites associations, comme celle de Christophe. Ce jour-là, il décharge de sa vieille camionnette de nombreuses cagettes de fruits et légumes achetés à bas prix au marché d'intérêt national.
On a des concombres.
Ouais, on met dessus.
Peut-être des défauts d'aspect, mais ils sont consommables. Hein.
Ça, par exemple, ils vendent 30 centimes le kilo. En fait, il y a beaucoup de surplus.
Allez, on fait un deuxième voyage.
Malheureusement, aujourd'hui, l'offre ne suffit plus pour répondre à la demande et les chambres froides se vident dangereusement.
La chambre froide, elle est là, donc il ne reste pas beaucoup. Là, on galère, hein. La vérité, on galère. Et là, on est en détresse. La réserve, elle est pauvre, elle pleure.
La période est critique. L'objectif pour les organisateurs de cette collecte alimentaire est également de multiplier les appels aux particuliers, aux artisans bouchers, jusqu'à la grande distribution et même au pouvoir public pour répondre aux besoins des habitants des quartiers pauvres de la ville.
Quelques mots à retenir particulièrement de ce reportage de Stéphane Burgat. Nous sommes passés de la pauvreté à la misère. Un appel très clair au pouvoir public, Benjamin Coriat. La réponse du gouvernement, la réponse sociale, elle existe? Est-ce qu'elle est suffisante et jusqu'où doit-elle aller?
Écoutez, ce que nous montre non seulement ce reportage, qui est d'ailleurs fort bien fait, hein, sauf que pour ma part, il met en évidence toute une série de choses très importantes. Donc ce que montre non seulement ce reportage, mais les chiffres, 1 million de pauvres en plus après le déconfinement, ou comme produit du confinement, montre que ce qui est fait est encore très insuffisant. C'est vrai qu'il y a eu un ensemble de mesures, notamment le chômage partiel, enfin les différentes mesures qui ont été prises pour soutenir et les entreprises et les salariés ont été dans l'ensemble très positives, hein, ça c'est incontestable, mais malheureusement on voit que de très nombreuses communautés, j'emploie l'expression à dessein, hein, c'est-à-dire des ensembles de personnes, soit liées par des attaches résidentielles, soit liées à des types d'activités déclassées ou fragmentaires, eh bien, ces ensembles de communautés sont tombés dans la très grande misère. Et notre système de solidarité, qui n'est pas mauvais, hein, puisque effectivement notre système de prestations indirectes permet de sortir de la pauvreté beaucoup de gens, eh bien cette crise a démontré que il y a d'énormes trous dans le filet. Donc très clairement, oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans notre système pour d'abord sauver tous ces gens et ensuite empêcher le retour de ces situations.
Anne-Sophie Alsif, est-ce que de toute manière, les Français, comme les Européens d'ailleurs, et comme beaucoup de gens ailleurs dans le monde, hein, est-ce qu'ils ne devront pas de toute façon renoncer à leur niveau de vie tel qu'il existait il y a quelques mois ou quelques années ?
Non, pas forcément. En fait, c'est ça que l'on voit. C'est vrai que globalement, vous avez une augmentation de la pauvreté. Je crois qu'au niveau mondial, c'est aussi des dizaines de millions de personnes, les derniers chiffres de la Banque mondiale, qui sont de nouveau dans la pauvreté. La problématique pour moi, c'est vraiment l'augmentation des inégalités que cette crise met encore en avant. On le voit au niveau français, on l'a vu dans votre reportage, hein. Qui sont les personnes les plus touchées ? Alors ça va être par rapport à votre type de contrat de travail, donc les personnes qui vont être en CDI vont être plus protégées que ceux qui sont en intérim ou qui ont des emplois précaires, ou qui peuvent être à mi-temps, qui vont travailler dans les services qui sont en général les emplois où il y a moins de valeur ajoutée et moins de qualifications, donc ce sont les personnes qui sont en première ligne, alors que vous avez des personnes, on va dire, plus diplômées en CDI qui vont être plus protégées. Donc c'est beaucoup plus ça, que ce soit au niveau des salariés ou même des entreprises, on a parlé des petits commerces, des grandes entreprises et bien sûr des entreprises du numérique qui pour elles c'est absolument colossal les gains en chiffre d'affaires, c'est vraiment les inégalités qui augmentent entre les personnes, entre les entités, entre les entreprises, et c'est très difficile d'avoir une réponse gouvernementale parce que la réponse de l'État va toujours être nationale, alors que ce sont des questions qui devraient être traitées au niveau européen ou au moins international.
Parce que les entreprises du numérique, effectivement, elles ne sont pas nécessairement françaises.
Exactement. On connaît déjà toute la difficulté pour faire payer la fameuse taxe GAFA. Et en plus, avec ce qui se passe, et il y aura sûrement peut-être d'autres vagues, c'est sûr que la numérisation, toutes les entreprises numériques ont, on va dire, ou rien qu'au niveau du droit de la concurrence, ont des avantages qui sont colossaux. Donc les différentes instances nationales ont très peu de moyens pour lutter contre ça. On l'a dit, bon, on parle bien sûr toujours d'Amazon, mais dans d'autres secteurs, c'est également le cas. Comment vous pouvez justement essayer de préserver le chiffre d'affaires de tel ou tel petit commerce ou grande surface face à des géants comme ça dans le numérique ? Alors, on dit il y a des programmes qui sont tout à fait bien, que en effet les entreprises doivent développer leur site, développer elles aussi la numérisation, mais le problème c'est que ça demande beaucoup d'investissement et que vous ne faites pas ça en très peu de temps face à des concurrents qui sont en effet déjà très installés, très établis. Donc c'est vrai que derrière cette crise, à mon sens, c'est vraiment toutes ces questions de la concurrence, de quelle politique au niveau international on met en œuvre pour essayer d'avoir plus de concurrence, on va dire juste, entre les différents acteurs, et qu'est-ce que l'on peut faire au niveau des États pour lutter contre ça. Mais alors, là, en effet, ça demande vraiment des concertations globales et dans un système de crise, et on le voit d'ailleurs, hein, on est plutôt dans une logique de bloc où chaque entité, États-Unis, Chine, Europe, essaie d'avoir plutôt une réponse locale qu'une vision internationale.
Alors justement, j'aimerais vous entendre sur ce point, Xavier Timbaud. Est-ce que la France et plus généralement l'Europe perd du terrain avec tout ça sur un plan économique par rapport aux autres grandes puissances du monde ? Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a les pays émergents ?
Bah, disons que cette crise, elle montre évidemment, comme il vient d'être dit, l'importance de la souveraineté numérique et de la capacité à taxer de façon juste les entreprises du numérique qui évidemment profitent de ces mesures de confinement. Je pense, enfin, par ailleurs, que il y a quand même, enfin, c'est un petit peu ce que suggérait Benjamin Coriat, il y a quand même une nécessité de réfléchir à quelle est la fonction de nos systèmes de protection sociale. On s'aperçoit que, en gros, ce qu'on sait très bien faire est protéger les gens qui ont des contrats de travail, qui ont une place dans la société qui est bien identifiée. Et pendant des années, on a fait de la chasse à la fraude et aux incitations perverses. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que tous ceux qui étaient à la marge, En situation de précarité, qui n'avaient pas de contrat parce qu'ils ne sont pas en situation de légalité, qui sont dans l'économie informelle parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont exclus, parce qu'ils sont ghettoisés dans des zones communautaires. Tout cela, ils sont un peu hors d'atteinte du système de protection sociale. Et dans une crise comme celle-là, c'est cela sur qui le choc est le plus fort. Et le plus dramatique. Et en plus, c'est invisible, ou c'est difficilement visible. Donc ça pose des vrais problèmes, et en particulier, ça, le problème que ça pose, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait préparé à ce genre de choc. On s'est installé dans l'idée qu'on avait des systèmes de protection sociale et des systèmes sanitaires qui étaient solides. On se rend compte qu'en fait, ils sont pas solides pour répondre à ce genre de situation de crise. Et ça, c'est quand même des éléments qu'il faut absolument mettre sur la table, parce que ce qui est en jeu, c'est quand même la défense de la démocratie et d'une certaine forme de société sociale et solidaire, mais sans être une société autoritaire. Et c'est là où l'Europe peut perdre du terrain, c'est-à-dire en croyant avoir un système très sophistiqué et avancé, ne pas être capable de répondre à ces crises très brutales, et donc risquer de basculer dans l'autoritarisme parce qu'on risque de penser que c'est plus efficace qu'un système démocratique.
Je reste encore un instant sur l'international. Emmanuel Jessua, est-ce que la France, avec cette crise épidémique, avec ce second confinement, est-ce qu'elle perd des contrats en ce moment ailleurs ?
La France, elle est frappée particulièrement durement par le confinement et la pandémie, parce que ces points forts à l'exportation, qui ne sont en réalité pas si nombreux, parce que la France depuis 20 ans a perdu beaucoup de compétitivité à l'export, pas seulement par rapport aux émergents, mais par rapport à nos partenaires européens. Nos rares points forts, en particulier l'aéronautique, sont particulièrement frappés par justement les confinements, les mesures de distanciation sociale, l'arrêt du tourisme international, transfrontalier et des vols long courriers. Et donc, on enregistre en fait une perte de parts de marché, alors qu'on avait réussi à stabiliser nos parts de marché depuis 2-3 ans, grâce à des politiques de compétitivité, notamment CICE, pacte de responsabilité. Là, on accroît de nouveau notre déficit commercial.
On pourrait perdre notre fleuron industriel qu'est Airbus, par exemple.
C'est pour ça que, pour essayer de conjurer ce scénario noir, que voilà, le gouvernement a mis en place un plan aéronautique, des soutiens à la fois par capitalisation à Air France, mais aussi à l'innovation, aux avions propres du futur, etc. Est-ce que ça suffira? Tout dépendra de combien de temps cette situation pandémique dure. Mais elle laissera quand même des traces profondes. Et d'ailleurs pas que sur l'aéronautique, en fait. On a toute une situation des entreprises, comme l'a rappelé Xavier Timbaud, dont les fonds propres ont été quand même très très fragilisés. Le revenu des ménages a été quand même au global préservé, notamment par l'activité partielle, même si les plus précaires ont perdu. Mais les marges des entreprises, elles, ont fondu, évidemment. Et ça risque de laisser quand même des traces profondes sur leur capacité de rebond, d'investissement, leur résilience, et in fine notre capacité aussi à exploiter une reprise mondiale, à tirer parti d'une reprise mondiale.
Pour rester compétitive, effectivement, le gouvernement a lancé un vaste plan de relance pour permettre à l'économie française de rebondir, théoriquement, dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Abla Jonaïdi du service économie de RFI nous a rejoint. Qu'est-ce que ce plan de relance va coûter à l'État? Quelles recettes sont prévues? Faites le point.
Alors, 100 milliards d'euros, c'est ce que prévoit ce plan de relance qui se décline en trois grands pôles sur 2 ans. 35 milliards pour la cohésion, avec les plans de soutien aux collectivités, notamment, et le Ségur de la santé aussi. La part belle est donnée à la production et à l'emploi, avec 34 milliards d'euros pour la compétitivité et cette mesure phare, la baisse des impôts pour les entreprises. Et puis, il y a le volet verdissement de l'économie auquel sont affectés 30 milliards d'euros. Outre que tout ça ne sera pas aux frais de l'État, puisque les territoires pouvoir mettre la main à la poche aussi. Toutes ces mesures ne sont pas neuves. Hein. On a parlé du Ségur de la Santé, il a été annoncé cette année, Bruno.
Alors, il y a pas mal de critiques quand même sur ce plan de relance. La Commission des Finances du Sénat, l'Institut Montaigne, qui jugeait hier que le plan n'est pas assez ciblé.
Oui, notamment la baisse d'impôts des entreprises, hein, qui est décidément très critiquée et dont les effets recherchés sont plutôt de long terme. Les sénateurs invitent le gouvernement aussi à déployer plus rapidement les mesures de soutien aux ménages, on en parlait, et aux entreprises les plus affectées par la crise. Il cite même le plan Sarkozy, hein, qui a suivi la crise financière de 2008. C'est beaucoup trop lent comparé à nos voisins allemands, par exemple. Ils disent également, les sénateurs républicains, le décaissement est beaucoup trop lent. Bref, le reconfinement donne une occasion de juger sous un autre jour ce plan de relance annoncé en septembre dernier.
Merci Abla. Cette question fiscale, en effet, elle va devenir centrale. Il nous reste encore quelques minutes dans cette édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Benjamin Coriat, Bercy va devoir mettre la main au porte-monnaie. Ça va coûter de l'argent. Il va falloir rembourser un jour ou l'autre.
Écoutez, moi, ce qui me préoccupe, c'est pas tellement qu'il va falloir rembourser, parce que je pense que pendant longtemps, la Banque Centrale Européenne et les responsables de l'émission de la monnaie, si je peux dire, vont garantir des taux bas. Donc, il faut arrêter avec ce spectre-là. Ce qui est plus inquiétant, c'est comment cet argent est dépensé. Est-ce qu'il l'est utilement? Est-ce qu'il va aux bons endroits? Est-ce qu'il va aux bonnes personnes? Est-ce qu'il va aux bonnes activités? Et ses modalités mêmes. Et sur ça, moi, je suis extrêmement réservé. D'abord, sur le timing, on lance un plan au moment où on annonce un nouveau confinement. Bon, c'est vraiment presque insensé, si je peux dire. La deuxième chose, c'est sur le fond. Alors, on a parlé des dégrèvements d'impôts pour les entreprises, dont il faut bien comprendre que c'est des recettes en moins pour les collectivités territoriales, au moment où les territoires s'assèchent. Donc je veux dire, c'est vraiment une mesure non seulement, extrêmement injuste, hein, du point de vue de ceux qui ont besoin de choses, mais en plus un peu inique. Bon, donc moi, si vous voulez, je suis très scandalisé par la nature de ce plan. En même temps, on parle du Ségur de la Santé, mais le Ségur de la Santé, c'est vraiment un cotère sur une jambe de bois. L'hôpital public, la santé publique a besoin de beaucoup plus d'argent que ça.
Pour vous, c'est la priorité.
Bien sûr. Si on avait un hôpital public qui fonctionne, une santé publique qui fonctionne, on n'aurait pas les problèmes qu'on a. Mmh. On n'aurait pas les confinements de la dureté de ceux qu'on a. Et on n'aurait pas les menaces qui planent sur nous. Donc, je veux dire, on économiserait énormément d'argent à reconstruire un système de santé publique.
Anne-Sophie Alsif.
Déjà au niveau du timing, il faut savoir que tous les pays européens, notamment l'Allemagne, qu'on cite toujours en exemple, a également annoncé un plan de relance de 130 milliards. L'Italie, l'Espagne, donc tous les pays européens, après le premier confinement, ont essayé de mettre en place un plan de relance pour justement relancer à la rentrée suite au plan des 750 milliards européens, où d'ailleurs la France va profiter de 40 milliards qui viennent de l'Europe. Donc c'est pas que la France qui fait son plan de relance, et bien sûr il y a le reconfinement, mais on a les mêmes phénomènes dans les autres pays européens. Et puis l'autre aspect, parce que c'est vrai que c'est toujours assez intéressant de voir à quel point on a très peu de mémoire dans les crises. Pendant tout le confinement, il y a eu tout un débat sur le fait qu'on était trop dépendant à la Chine, qu'on avait laissé partir notre industrie, qu'on délocalisait. D'ailleurs, on a vu à la rentrée avec les plans sociaux et des fermetures d'usines, notamment dans le pneumatique ou dans le secteur manufacturier, des fermetures en disant mais comment est-ce possible qu'on ait autant délocalisé, désindustrialisé, qu'on soit aussi dépendant de la Chine. Donc c'est vrai que l'objectif de ce plan, c'était d'avoir un volet court-termiste avec les soutiens emploi, chômage, soutien au chômage partiel, soutien aux entreprises pour faire face à la crise, mais aussi un volet de moyen long terme pour dire ben voilà comment on va réindustrialiser, comment on va attirer de nouvelles industries et aussi surtout comment on va investir dans ces fameux secteurs stratégiques. Et d'ailleurs dans ces secteurs stratégiques, il y a la 5G, l'agroalimentaire, etc., mais il y a également la santé. Donc je sais qu'on aime toujours critiquer tout, mais des fois il faut quand même voir que là l'idée était quand même de prendre en compte les débats qui avaient eu lieu pendant ce confinement. On a en plus 30 milliards pour la conversion écologique. Alors pendant le confinement, tout le monde était écolo et là, plus du tout. Donc c'est vrai que ces 30 milliards passent à la trappe, mais c'est quand même aussi un effort important. Et pourquoi ? Parce que ça va stimuler aussi la consommation. Beaucoup de gens qui veulent faire de la rénovation, ça, ou également tout ce qui est changement des véhicules, ça a un vrai impact. On voit déjà dans l'avant des véhicules depuis qu'il y a ces primes. Donc on peut voir tout en noir et dire que ça ne sert à rien, mais on ne peut pas non plus omettre les débats qu'il y a eu pendant le premier confinement et de voir que ce plan de relance est un petit peu une réponse. Au niveau européen, il y a la logique d'avoir un plan qui soit qui favorise le numérique et qui favorise la transition écologique. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu ces ciblages dans le plan de relance. Alors bien sûr, vous allez me dire maintenant qu'il y a le reconfinement, on se dit bah voilà, d'avoir la baisse des impôts de production, ce genre de choses, c'est du moyen long terme. Mais je pense que c'est aussi le but de ce plan, de préparer le court terme, mais aussi de préparer l'après-crise. Et qu'est-ce qu'on aurait dit s'il n'y avait eu aucune préparation de l'après-crise, en disant, bah voilà, vous avez distribué plein d'argent, vous avez aidé tout le monde, et puis maintenant, on n'a rien sur l'industrie, on n'a rien sur les secteurs stratégiques. Donc, je crois qu'il faut quand même nuancer plus le propos.
Réponse plus courte, s'il vous plaît. L'émission est bientôt terminée. Emmanuel Jessua, est-ce que la dette publique va être soutenable? Quelles sont les solutions? Certes, il y a la Banque centrale, il y aura la planche à billets, ça va pas forcément plaire d'ailleurs à Angela Merkel.
Bah, écoutez, c'est pas forcément gravissime si on atteint un nouveau palier de dette, un plus haut, si vous voulez, de l'ordre de 20 points de PIB, c'est-à-dire qu'on serait à un niveau de dette publique de 220 points de PIB. L'important, c'est la soutenabilité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effet boule de neige, qu'il n'y ait pas une trajectoire incontrôlable d'augmentation de la dette publique. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir faire revenir les déficits publics chaque année dans des zones beaucoup plus raisonnables et donc à moyen terme clairement en dessous de 3%.
Donc
et
on ça, augmente les impôts problème, quand même.
Alors justement toute la difficulté, c'est si on se retrouve après cette crise durablement avec moins de croissance. Parce que là, l'équation risque de devenir beaucoup plus compliquée. Et en augmentant les impôts, on risque à nouveau d'aggraver nos problèmes structurels de faible compétitivité, faible croissance, faible innovation. Donc, évidemment, une stratégie sera d'arriver, même si c'est difficile, à trouver des économies supplémentaires de dépenses publiques qui sont les moins nocives possibles pour la croissance à long terme. On peut penser notamment aux retraites.
Le dernier mot pour vous, Xavier Timbaud, sur ce point.
Bah, disons que la question de la soutenabilité de la dette, elle est indissociable de la question des taux d'intérêt. Et là, pour le coup, on peut penser que effectivement les banques centrales vont s'engager dans des stratégies de moyen terme pour maintenir des taux d'intérêt bas, qui par ailleurs sont aussi bas pour un certain nombre de raisons assez profondes. Donc je pense que la question principale, elle n'est pas celle de la soutenabilité. La question principale, elle est aujourd'hui de mettre en place les conditions d'un rebond qui est possible, ça c'est ce que montrent les chiffres du troisième trimestre, qui est possible, mais qui doit être le plus fort possible dans un contexte qui ne va jamais revenir à la normale sur le plan sanitaire. Donc voilà, il faut effectivement s'engager dans un nouveau monde, assez résolument, en faisant un peu confiance à tout le monde dans sa capacité d'adaptation et en acceptant toutes les conséquences de ce nouveau monde, en particulier sur le plan sanitaire et tout ce que ça veut dire en renforcement, par exemple, de l'hôpital, des dispositifs de filets de protection sociale, mais aussi voilà, de chercher à adapter nos entreprises et nos modes de consommation à ce nouveau monde dans lequel il faudra peut-être un peu plus de distance physique entre les individus.
Effectivement, c'est ce qu'on voit en ce moment. Merci à tous d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Benjamin Coriat, Anne-Sophie Alsif, Xavier Timbaud, Emmanuel Jessua. Cette émission que vous retrouvez naturellement sur notre site internet rfi.fr. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Sur RFI.